La chronique des notaires, c'est un rendez-vous désormais hebdomadaire où les notaires de la Cour d'appel de Toulouse vous apporteront un éclairage, des solutions, une visibilité pratique et tenteront de vous faciliter la gestion quotidienne.
Bonjour à tous et bienvenue sur Altitude FM 93.5, Radio du Grand Toulouse. Aujourd'hui, une chronique notariale autour du thème de la Société Civile Immobilière, en abrégé SCI. Premier point, la définition de la SCI. La SCI, Société Civile Immobilière, est évidemment une société qui est constituée d'au moins deux personnes, avec un nombre de personnes que l'on souhaite. L'objet de cette société est un objet civil. Alors, ça a toute son importance parce que l'objet civil est à opposer à l'objet commercial. Comme je disais, ça a toute son importance puisque ce n'est pas une société qui est constituée pour faire de façon mécanique et habituelle de l'achat et de la revente de biens immobiliers. Société civile immobilière, on la retrouve habituellement dans un cadre familial ou du moins amical. C'est une société qui est parfaitement adaptée à ce genre de rapport que l'on peut avoir au sein d'une famille ou au sein d'une d'amis pour faire des investissements. La société civile immobilière, c'est généralement le type de société que l'on retrouve dans un cercle familial ou un cercle de personnes qui se connaissent et s'apprécient, bien sûr. Il y a ce que l'on appelle un fort affectio societatis, c'est une notion de droit qui parlera aux anciens étudiants de droit, c'est-à-dire la volonté d'intégrer une même société. Deuxième point, comment se constitue une société civile immobilière? Quels sont les actes qu'elle peut accomplir? Et quelle est la procédure à suivre pour une constitution? Alors, dans ce cas-là, il faut savoir que même si je suis notaire et que j'ai l'habitude de prêcher pour ma paroisse, comme on dit, il n'en demeure pas moins que l'établissement de statut d'une société civile immobilière n'est pas un âge des notaires. Toutes les professions de droit peuvent rédiger des statuts constitutifs de SCI. Expert comptable, avocat. Il peut même y avoir des personnes qui, si elles se sentent capables de le faire, peuvent très bien télécharger des modèles sur Internet pour signer ces statuts. Je pense qu'il faut quand même passer par un professionnel parce que dans les statuts, il y a quand même des clauses très importantes que l'on va aborder par la suite qui peuvent avoir un impact dans le cadre de la gestion et de la transmission des parts sociales. Donc quand même, même si il y a des modèles que l'on trouve sur Internet qui sont pas mal, hein, c'est quand même mieux de passer par un professionnel, à mon avis. D'autant plus que le formalisme qui suit la signature des statuts constitutifs, qui sont des formalités qui sont accomplies auprès du service de l'enregistrement, auprès d'un journal d'annonce légale, auprès de l'IMPI, pour l'immatriculation au greffe. C'est quand même assez pratique, semble-t-il, pour beaucoup de personnes de passer par un professionnel du droit. En ce qui concerne le notariat, il faut savoir que la constitution d'une SCI n'est pas l'objet d'un émolument, ce n'est pas tarifé par un émolument. Donc c'est ce qu'on appelle un honoraire, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous décidez de passer par un notaire pour la constitution d'une SCI, eh bien le notaire en question doit vous proposer un honoraire que vous êtes libre d'accepter, de refuser, de négocier afin de mener à bien cette mission que vous décidez de lui confier. Et bien sûr, cela est également le cas pour les actes qui viendraient modifier les statuts de la SCI, par exemple en cas de diminution de capital, augmentation de capital, entrée d'un nouvel associé au sein de la société. Voilà, tout cela, c'est un honoraire qui le gère. Donc n'hésitez pas à en discuter très librement avec le notaire en question. Troisième question, quels sont les avantages de passer par une SCI? Alors il y a plusieurs avantages à passer par une SCI. D'abord, le plus grand avantage, c'est qu'on évite l'indivision. L'indivision, pour rappel, c'est quand plusieurs personnes ont sur un même bien des droits de même nature. Et au terme de la loi, nul n'est censé rester dans l'indivision. Donc si par exemple vous êtes en indivision sur un bien immobilier avec des cousins, des frères, des sœurs et que l'indivision se passe mal, eh bien chacun de vous peut provoquer le partage. Ça peut aller malheureusement jusqu'à la vente aux enchères. là, dans le cadre des SCI, il n'y a pas ce problème-là parce qu'il n'y a pas d'indivision, chacun des associés étant propriétaire de parts individualisées. Donc voilà, il n'y a pas de, personne ne peut obliger les autres à vendre leur part. Hein. Voilà, ça apporte évidemment une certaine stabilité au sein de la société. Et je rajoute qu'il est parfaitement possible de créer, en revanche, un démembrement hein, sur, enfin, sur les parts sociales. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des parents qui restent usufruitiers de parts sociales et des enfants qui sont nus propriétaires des mêmes parts sociales. Ça n'empêche pas. Enfin voilà, si on veut bien faire les choses, si on a peur que l'indivision pose quelques problèmes, c'est pas mal de passer par une SCI. L'autre avantage, c'est que ça facilite la gestion. Ça facilite la gestion parce qu'au terme des statuts, il y a la nomination d'un gérant. Évidemment, après, il y a des assemblées générales qui reprennent, on va dire, enfin, qui peuvent nommer de nouveaux gérants. Et en fait, ce gérant va avoir le pouvoir, évidemment, d'engager la société pour les actes qui sont conformes à l'objet social. Alors, l'objet social, qu'est-ce que c'est ? C'est la raison d'être de la société. Alors, généralement, il va s'agir de l'acquisition de biens immobiliers, de leur gestion, administration. Ça veut dire que là, si on a par exemple les parents qui sont gérants, ben, les parents vont pouvoir intervenir seuls, classiquement, pour acheter tel bien immobilier. Et les enfants associés par ailleurs pourront tirer les bénéfices au niveau des revenus de ces biens qui seront acquis. Donc, c'est évidemment, ça évite d'avoir à bouger tout le monde pour un rendez-vous. On fait intervenir le gérant pour acheter le bien, enfin pour signer un contrat de bail, pour signer le contrat d'assurance, pour voilà, toutes ces choses-là. Et dans le cadre de la gestion, elle peut aussi présenter des avantages parce qu'on est libre, dans ce cas-là, de faire entrer dans la société le conjoint ou pas. Alors, il n'y a pas vraiment de débat quand il s'agit d'un conjoint séparé de biens, parce que là, bon, évidemment, la séparation de biens crée des patrimoines qui se veulent hermétiques entre les deux époux. Mais qu'en est-il des personnes qui sont mariées sous un régime légal ? Eh bien, vous pouvez très bien, en fait, avoir un époux qui est seul associé au sein d'une société civile immobilière, et auquel cas, eh bien, il sera quand même bon de faire renoncer l'épouse, ou l'époux d'ailleurs, au statut d'associé. Donc ça se prévoit dans les statuts. L'autre chose qui est facilitée par la SCI, ben c'est évidemment la transmission, parce qu'on reprend un petit peu la problématique autour de l'indivision, quand on fait une donation de parts sociales ou quand on règle une succession. Bien évidemment, on ne crée pas nécessairement d'indivision, ou alors cette indivision a vocation à faire l'objet ensuite d'un partage. Par exemple, une donation, vous faites une donation partage de 10 parts sociales à chacun des enfants, et au moins comme ça, ils ne sont pas en indivision. Donc, au moins, ça permet de tranquillement organiser la succession par le biais d'une donation, ou alors une fois que la succession est ouverte par suite du décès, permet quand même de faciliter un petit peu la gestion, puisque ben, si on a un héritier qui est un petit peu en froid avec les autres, on peut prévoir ce qu'on appelle des clauses d'agrément, qui sont des clauses de nature à écarter une personne qui ne recevrait pas l'agrément des autres associés. Et ça, c'est peut-être important. Alors évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes, hein, notamment financiers, mais c'est un bon outil pour rester personne qui s'apprécie, tout simplement. L'autre avantage, bon, ça peut être un avantage ou un inconvénient, là il est très important de savoir d'ores et déjà ce que l'on veut faire avec la SCI. Si par exemple il s'agit d'une SCI, vous allez acheter un bien immobilier pour le louer quelque temps, ensuite vous allez le revendre. Il faut se poser la question de savoir si on fait opter la SCI à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les revenus. Quand vous optez pour l'impôt sur les sociétés, ça veut dire que les bénéfices vont être taxés à 25% au titre d'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les revenus, on va avoir en revanche un principe de transparence fiscale qui va s'appliquer, c'est-à-dire que ce sont les associés qui vont voir leur revenu fiscal de référence augmenter de leur part dans les SCI. Et évidemment, comme d'habitude, je dirais, ce que l'on peut gagner d'une main, on peut éventuellement perdre de l'autre. Et là, c'est le cas avec la plus-value immobilière. Par exemple, si vous optez pour l'impôt sur les revenus et que vous décidez plus tard de vendre le bien, comme il s'agit d'une transparence fiscale, vous allez pouvoir bénéficier de tout un tas d'exonérations et d'abattements qui seront applicables, que le bien soit détenu par le biais d'une SCI ou à titre personnel. Donc ça va passer par les durées de détention, tous les abattements que l'on peut trouver dans le cadre d'une plus-value pour les particuliers. Quand on a opté pour l'impôt sur les sociétés, là en revanche, c'est une plus-value professionnelle, hein, et c'est pas le même calcul, parce que le bien, en fait, constitue un amortissement qui voit sa valeur comptable baisser d'année en année, comme tous les amortissements. Et au niveau de la plus-value, eh bien là, ça peut être beaucoup plus important. Donc, en gros, ça veut dire que si le bien a vocation à rester dans la famille, mais pendant des décennies, j'entends, là, ça peut être bien de passer par l'impôt sur les sociétés. Si en revanche, on veut quand même garder une gestion assez simple, et puis qu'on veut toujours se garder la possibilité de revendre le bien plus tard, là, je pense qu'il vaut mieux opter pour l'impôt sur les revenus. 4. Quels sont maintenant un petit peu les inconvénients de la plus-value ? Alors, bon, on a vu l'inconvénient lié à la plus-value, notamment quand on opte pour l'impôt sur les sociétés. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, malheureusement, voient dans la SCI une solution à tous les problèmes. Alors, la SCI va pouvoir régler quelques problèmes, notamment au niveau civil avec l'indivision. Mais attention, c'est pas parce que vous êtes associé dans une SCI que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez au niveau des donations ou successions, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on ne raisonne qu'en termes de valeur mathématique des parts sociales, c'est-à-dire qu'on prend le capital qui est généralement assez bas, on divise par le nombre de parts, on obtient la valeur de la part. Pour les successions, pour les donations, même pour les ventes, ça ne se passe pas comme ça, on tient compte d'une valeur économique. C'est-à-dire qu'il y a un bien unique, par exemple, qui a été acheté par la société. Ce bien unique vaut 500 000 euros, qu'il n'y a plus de prêt qui reste dû. Eh bien, pour le calcul des parts sociales, on tient compte de la valeur vénale du bien. S'il y a un passif, on peut le déduire pour la valorisation. Mais enfin, voilà, ça serait trop simple sinon de tout mettre en SCI. Si on retenait forcément la valeur mathématique des parts sociales, il s'agirait là d'atteintes potentielles portées à la réserve héréditaire. Ce serait inacceptable puisque la réserve héréditaire est d'ordre public. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous avez un projet de SCI, ou même si ce n'est pas encore au stade du projet, que c'est une réflexion que vous portez au sein du couple, au sein de la famille ou avec des amis, vous n'hésitez pas à consulter un notaire ou, comme je vous l'ai dit, une autre profession juridique. Hein. Enfin là, je suis là pour conseiller, on va dire, l'intervention du notaire. Le notaire va vous conseiller vraiment en tenant compte de votre situation personnelle, votre situation économique. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de faire un courrier type qui va s'appliquer à tout le monde. Il faut vraiment, selon le contexte, bien travailler les clauses des statuts de la SCI. Donc n'hésitez pas, le notaire est là pour vous conseiller. Chez la plupart des confrères, sinon tous, le conseil est gratuit. Donc renseignez-vous avant. Et puis si vous décidez de consulter un notaire et de lui confier la rédaction des statuts, pensez à un honoraire calculé, proposé et accepté avant. Voilà, à très bientôt sur Altitude FM. Au revoir.
N'hésitez pas à vous rapprocher de l'Institut des métiers du notariat ou de nous retrouver sur notre Twitter @notaire-TLSE ou sur Facebook Notaire Cour d'appel de Toulouse. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Altitude FM.